Ce trimestre, nous parlons de la formation, de l'emploi et du droit du travail. Vous allez écouter une émission réalisée par Jean-Christophe Blancan avec les clubs d'entreprises de la rive droite et de Haute-Garonne Développement, agence de développement économique. Lors de cette émission, vous entendrez Jacques Boin de Haute-Garonne Développement, des entreprises pépinières avec ATRS et François Plomberie, ainsi que des témoignages de jeunes entrepreneurs et un coup de projecteur sur le dispositif contrat de génération.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les 15 jours notre rendez-vous l'écho des entreprises proposé par Odo Radio en partenariat avec Haute-Garonne Développement et co-animé donc par Jacques Boin, directeur d'Haute-Garonne Développement. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Jean-Christophe.
Alors, un plateau très riche encore ce soir, Jacques. Alors, nous avons autour de nous Cécile Clémenceau-Mazon. Alors, bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Alors vous êtes chargé de mission au développement économique, à l'aménagement de l'espace communautaire et au tourisme, à la communauté des communes des portes de l'Entre-deux-Mer, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça.
Et vous êtes aussi coordinatrice d'un nouvel espace qui a été créé, je crois savoir, début septembre, c'est-à-dire l'espace de télétravail, mais justement à la traîne. Et ce soir, vous êtes venu justement pour nous parler de cette création de cet espace de télétravail, mais chez vous à la traîne. Donc on va essayer de voir à quoi ça sert. Et pas à qui, et surtout à qui finalement c'est destiné. Hein? D'accord, Cécile. Alors on passe à Alain Bonnet. Alain Bonnet, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Christophe.
Alors Alain Bonnet, voilà, que les auditeurs et les auditrices d'Odo Radio connaissent, parce qu'il a eu l'occasion de passer déjà plusieurs fois sur nos antennes. Avec, alors Alain Bonnet, vous êtes président du club d'entreprise de ce nom. Et vous allez venir nous parler de l'actualité du club. Et j'ai cru entendre que le nombre d'adhérents avait encore augmenté. Donc on voit que la dynamique entrepreneuriale à ce nom se porte bien. Certainement grâce à vous, Alain. Hein, je sais que vous faites beaucoup d'efforts, évidemment, autour des chefs d'entreprise. Et on reviendra sur des événements importants, notamment une formation numérique qui est entreprise par le club des entreprises de ce nom. Et aussi une visite de TBC qui est prévue pour très bientôt. On y revient dans quelques secondes. Nous avons aussi autour de ce plateau François Fourligny. François, bonsoir.
Bonsoir.
Alors François Fourligny, vous êtes jeune créateur d'entreprise et d'ailleurs votre entreprise est hébergée à la pépinière d'entreprise de Foirac et vous avez une entreprise, vous êtes gérant d'une entreprise de plomberie.
C'est exact.
Très bien, on reviendra vers vous aussi d'ici quelques secondes. Et pour finir ce tour de table, nous avons la joie et le plaisir de recevoir Patrick Raoult. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Là, vous êtes Patrick Raoult, responsable du pôle formation continue et aussi de l'emploi et de la ressource humaine à la Chambre des métiers d'artisanat de l'Aquitaine. Section Gironde, c'est
section
bien ça
Gironde,
hein?
Oui, absolument.
Bon. Alors, Jacques, si vous voulez bien, on va commencer par les rendez-vous économiques de cette fin de mois de septembre. Je crois qu'on ira jusqu'au 3 octobre.
Exactement, et les rendez-vous pour la fin de ce mois sont assez nombreux. D'abord...
Alors, sortez vos agendas, n'hésitez pas pour prendre des notes.
Exactement. D'abord, les permanences pour la création, le développement et la reprise d'entreprise, donc tenues par des chargés de mission de Haute-Garonne Développement. Dans les mairies, et voilà les dates, donc demain, de 14h à 17h à la mairie de Sainte-Eulalie, mercredi 25 de 10h à 12h à la mairie de Saint-Loubès, et jeudi 26 de 10h à 12h à la mairie de Saint-Louis-de-Montferrand. Voilà, on va s'arrêter pour les permanences pour l'instant, on reprendra tout à l'heure, tout de suite on va voir pour le jeudi 26... à 11h30, et c'est le club de ce nom qui va nous présenter
justement,
l'animation qui est prévue avec le club d'entreprise de ce nom.
Voilà, justement, Jacques, on en parlait dans cette présentation de nos invités. On disait qu'une visite était prévue de TBC par le club d'entreprise de ce nom, sous l'égide de son président Alain Bonnet. Alors, qu'en est-il exactement, Alain Bonnet, alors?
Alors donc, il s'agit d'une table ouverte exceptionnelle, visite des coulisses du tram,
au dépôt du tram Bastide, rue Boutier à Bordeaux, donc ce jeudi 26 septembre, dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. TBC a le plaisir d'inviter les adhérents du club des entreprises de ce nom et des entreprises du club SEBA, c'est-à-dire Bruges, Le Bouscat et Blanquefort, à une visite privée des coulisses du tram et du réseau TBC. À cette occasion, j'aurai le plaisir de signer
un partenariat avec
Paul Chaperon, directeur du marketing de TBC, qui permettra à nos adhérents et aux salariés des adhérents et peut-être un petit peu plus, de bénéficier d'une remise sur les transports urbains de 20%.
Donc ça, c'est quand même très intéressant, ça, même pour les patrons, hein, mais aussi surtout pour les salariés, bien entendu. Donc sur le réseau tram-bus, c'est finalement de toute la communauté urbaine de Bordeaux, donc une réduction de 20% sur tous les types de transport. Hein.
Voilà, absolument.
Très bien. Puis en plus, une visite guidée, commentée, l'évolution de ce réseau qui toutes les semaines avance encore et construit encore de nouvelles lignes. Donc ça, c'est important. C'est une demande des chefs d'entreprise ou c'est vous qui avez rencontré TBC, qui avez entamé une négociation avec eux?
Disons que TBC est venu vers nous pour proposer cette démarche qui est sympathique et qui est très utile parce que on a pas mal de salariés sur ce nom, vu que l'on compte quand même près de 1800 entreprises et 8000 salariés, donc ils sont amenés à se déplacer sur le territoire de la CUB, qui viennent des autres villes de la CUB, et donc il est très intéressant d'avoir une telle remise.
Et oui, c'est quand même une baisse significative sur des types de transport utilisés toutes les semaines et tous les mois, et peut-être ça peut inciter certains à laisser leur véhicule chez eux, à leur domicile, et prendre plutôt les transports en commun.
Absolument, c'est un petit peu le but, parce que vu la circulation surchargée sur Bordeaux et banlieue, ce n'est pas mal de prendre les transports en commun pour essayer de limiter les embouteillages.
Alors, bonne initiative, on va saluer cette initiative, évidemment, dans le cadre de cette semaine de la mobilité de développement durable. Donc, bonne initiative de à la fois du réseau TBC, du club d'entreprise de ce nom. On poursuit, Jacques, avec d'autres rendez-vous pour le jeudi 26.
Toujours le jeudi 26 à 19h30, cette fois au pôle Évasion dans Barès et la Grave, donc là c'est la CCI, et le club d'entreprise des Deux Rives qui nous invite à une soirée sur la thématique marché public, dématérialiser les appels d'offres, c'est simple, rapide et économique. En gros, quelles sont les règles et bonnes pratiques pour répondre efficacement au marché public? Comment répondre aux appels d'offres de marché public par Internet? Comment garantir votre identité, sécuriser et tracer vos échanges? Voilà, c'est ce que vous propose de venir découvrir la CCI et le club d'entreprise des Deux Rives le jeudi 26 septembre à 19h30.
Très bien, Jacques, on poursuit
le jeudi 26 toujours, et ça peut être jusque dans la nuit, puisque la CCI organise, dans le cadre des rendez-vous de la transmission, les nocturnes de la transmission, hein, c'est la 7e rencontre de ce genre, 7e rencontre cédant et repreneur, c'est à partir de 17h, place de la Bourse.
Très bien, toujours organisé par la Chambre de commerce et l'industrie, Jacques.
Hein, voilà.
De Bordeaux. On saute un jour, on arrive au vendredi 27 septembre.
Vendredi 27 à 12h, le club de Floirac et des Coteaux de Garonne fait sa table ouverte, hein, au restaurant Les Pieds sous la Table. C'est un temps de rencontre et d'échange entre les chefs d'entreprise du club, mais ouvert aussi à d'autres membres d'autres clubs.
Très bien, on arrive à la semaine prochaine, lundi 30 septembre.
Lundi 30 septembre à 18h à la cyberbase de Chenon. Il y a donc une réunion d'information sur les ateliers numériques. C'est une réunion organisée par le club de ce nom, et je crois que tout à l'heure on va y revenir aussi un peu plus longuement.
Oui, avec Alain Baudet, voilà. Tout à fait. Et juste peut-être pour signaler, début octobre, le jeudi 3, un petit déjeuner.
Jeudi 3 octobre, deux choses encore, au CIF dès 9h, petit déjeuner pour les chefs d'entreprise, savoir se présenter et présenter son entreprise. Ça, c'est dans les préparatifs donc du salon interentreprise du 17 octobre.
Oui, on va faire un focus
que les chefs d'entreprise sachent se présenter bien et rapidement. Et puis enfin, le jeudi 3 octobre aussi, à 18h30 au CIF, une soirée à destination des chefs d'entreprise, donc pour les aider à développer leur entreprise, où il sera question cette fois des emplois d'avenir, hein, c'est avec la mission locale, des contrats de génération avec le Pôle emploi.
On va faire un petit coup de projecteur sur ce dispositif d'ailleurs aujourd'hui.
Exactement. Et puis il sera aussi question du crédit d'impôt compétitivité et emploi, ce sera présenté par Martin Schnapper du cabinet FID Aquitaine. Voilà, c'est la soirée du 3 octobre au CIF à 18h30 pour les chefs d'entreprise.
Voilà, Martin Schnapper, qu'on avait eu le plaisir de recevoir il y a 15 jours, Jacques, dans cette émission, et qu'on salue s'il nous écoute.
Voilà.
On va passer la parole maintenant, Jacques, si tu veux bien, à François Fourligny. Rebonsoir, François. Donc, on le disait en présentation de cette émission, vous êtes nouvel entrepreneur, on a envie de dire, et gérant d'une entreprise qui a été créée, je crois, il y a 3 mois, on va y revenir, une entreprise de plomberie, et vous êtes hébergé à la pépinière de Foirac. On le rappelle, Jacques Blouin, cette pépinière est entièrement dédiée...
Entièrement dédiée au métier du bâtiment, axée sur l'éco-construction, mais on accueille aussi des entreprises du type de celle de François, donc... en plomberie aussi, effectivement. C'est une pépinière, donc, ça accueille des jeunes entrepreneurs qui ont moins d'un an d'existence, pour une durée de 23 mois, et on accompagne ces entreprises dans leur développement.
Merci Jacques. Alors François Fourligny et votre entreprise François Plomberie, c'est comme ça qu'on
c'est
l'appelle.
Ça.
D'ailleurs, je donne tout de suite le numéro. Si des gens ont des problèmes et qui nous écoutent, ils ont des problèmes de fuite chez eux, ils peuvent tout de suite appeler le 06 60 10 57 75 ou attendre peut-être la fin de cette émission parce que vous n'allez pas être disponible tout de suite, François. C'est donc ça. Alors comment on arrive aujourd'hui, vous avez quel âge, François?
J'ai 27 ans.
27 ans, donc on arrive à 27 ans à se dire, bon, voilà, je vais créer une entreprise de plomberie. C'est votre parcours qui vous a finalement guidé vers cette destination, ou ça c'est un concours de circonstances? Expliquez-nous, est-ce qu'on pourrait revenir en quelques minutes sur votre parcours professionnel?
Bien sûr, oui. Mon parcours est assez atypique. À la base, je suis ingénieur. Je travaillais dans l'aéronautique et l'aérospatiale.
Donc ici, dans la région Aquitaine?
Dans la région Aquitaine, voilà.
C'est un peu le fleuron de notre région,
c'est
cette industrie.
Ouais, oui, c'est ça.
Plutôt, on va dire, une bonne activité, bien rémunérée.
C'est ça, bien rémunérée, dans une entreprise qui avait de l'avenir. Et en fait, moi, j'étais...
On peut la citer, peut-être, l'entreprise, c'était...
Si vous voulez, c'était EADS, ça m'est dérangé. Hein. Et donc, moi, j'ai toujours été passionné de bricolage, de rénovation. Donc, durant mes études, je bricolais. Et donc, à la fin de mes études que j'ai fait en alternance... j'ai décidé de me réorienter complètement et j'ai trouvé une formation installateur thermique et sanitaire à l'AFPA.
D'accord, donc qu'est-ce qui a fait que vous êtes réorienté à un moment donné? C'était quoi, le statut de salarié qui vous convenait pas?
D'une part, oui.
Vous aviez quelque part la fibre de l'entrepreneur en vous.
C'est ça, il n'y avait pas la notion d'entrepreneuriat. Dans les grandes entreprises comme celle-ci, toutes les tâches sont bien distinctes.
C'est très segmenté.
Exactement, c'est très coupé.
Cloisonné,
c'est ça. Et donc, moi, j'avais envie de voir autre chose. Alors, j'ai réfléchi, j'ai un peu tergiversé, et puis j'ai trouvé une formation.
Donc, à l'AFPA, donc, on connaît cette association qui assure des formations professionnelles pour adultes. Et alors, justement, qu'est-ce que vous avez pu obtenir grâce à cette formation AFPA? François.
J'ai obtenu un diplôme installateur, un titre professionnel, pardon, installateur thermique et sanitaire,
qui est
équivalent à un CAP en fait.
D'accord, donc sanitaire, on pense à plomberie, thermique, plus le chauffage,
donc,
la climatisation.
Chauffage. Voilà. Plomberie, chauffage, climatisation dans un second temps, mais oui.
Donc effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation des bâtiments, d'isolation, d'économie d'énergie. On a encore eu une annonce ce week-end comme quoi la TVA allait être de passer le 10 à 5 pour tout ce qui concernait les rénovations en faisant des économies d'énergie. Donc ça, c'est pour vous, c'est un secteur porteur.
Ah oui, dans le chauffage, c'est un secteur très porteur en termes de chauffage. Aujourd'hui, on a les poêles à granules, les poêles à bois. La climatisation, les pompes à chaleur, donc tout ça c'est très porteur et ça fait vraiment économiser beaucoup d'énergie.
Oui, et vous pensez finalement que bon nombre de ménages, de familles vont devoir faire d'ici quelques temps, quelques mois ou quelques années, mais des travaux justement pour mettre leur logement aux normes, aux nouvelles normes, et puis surtout pour économiser l'énergie, donc gagner de l'argent, économiser de l'argent aussi.
Bien sûr, à long terme, oui. En fait, ici, on calcule le retour sur investissement de ce genre de moyens de chauffage. Le retour sur investissement peut être très intéressant.
Alors là, après le parcours du créateur d'entreprise, vous êtes passé aussi par plusieurs étapes. Une fois avoir eu ce titre professionnel en poche délivré par l'AFPA, d'installateur thermique et sanitaire, vous avez cherché justement à faire une étude de marché, à faire un business plan.
C'est ça, oui. J'ai rencontré différents acteurs. J'ai rencontré en premier lieu des experts comptables qui m'ont guidé. Ensuite, je suis allé à la Chambre des métiers.
Et de l'artisanat
de la section Gironde et d'autres intervenants, des banques, des assureurs. J'ai monté mon projet en environ, je dirais, 6 mois en travaillant en intérim en même temps pour me faire de l'expérience. Et parallèlement, j'ai découvert la pépinière d'entreprise des Hauts-de-Garonne, de Florac, en cherchant un local professionnel tout simplement pour faire dépôt.
Et vous atelier. Connaissez déjà ce concept de pépinière d'entreprise finalement?
Pas du tout. J'avais entendu parler des couveuses, mais je savais pas que j'aurais pu rentrer comme ça dans une pépinière.
Et donc là finalement, en plus du local que vous avez trouvé, donc où vous êtes situé aujourd'hui, d'ailleurs si on veut vous rencontrer, il suffit d'aller au CIF de Florac et rue Jean-Alphonséa. Voilà, donc en plus de ce local important, effectivement, quand on démarre une entreprise, on parle souvent de pénurie d'immobilier d'entreprise. Et je regarde Jacques Bouin, ce sera certainement l'objet d'un focus qu'on pourra faire un jour, Jacques. Et en plus de ça, je veux dire, il y a d'autres services justement qu'apporte une pépinière d'entreprise. Et je parle sous l'autorité de Jacques, évidemment, mais je vous laisse développer.
Bah, bien sûr, ouais, le CIF propose un accompagnement aux jeunes créateurs. Donc pour nous c'est un appui, ça regroupe diverses compétences et donc si on a des questions c'est tout de suite plus facile en fait. On dégrossit les problèmes que les jeunes entrepreneurs peuvent rencontrer beaucoup plus vite. Ils nous donnent des interlocuteurs compétents et voilà.
Jacques, peut-être rajouter un mot, c'est vrai,
oui,
sur cet accompagnement.
Dans le sens de ce que dit François, effectivement on accompagne, c'est-à-dire qu'on, dans les démarrages, non seulement on rencontre le candidat avant qu'il rentre en pépinière pour voir les tableaux de bord qu'il a construits, et on continue avec lui à affiner ses tableaux de bord quand il est dans la maison après, mais aussi on sert pour mettre en relation avec d'autres gens, qu'il ouvre son réseau au maximum. Et donc comme ça qu'on fait rencontrer des clubs d'entreprise. Pour ça que François doit être, je crois, au club d'entreprise de Floirac au moins. Voilà. Un maximum de contacts, parce que c'est par les contacts, le réseau professionnel.
Fameux réseautage qui permet un développement, quoi.
Voilà.
Alors après, vous pouvez profiter aussi d'échanges avec les autres, finalement, entrepreneurs installés sur cette pépinière. Il y a des échanges d'expériences, de savoir, parce qu'ils sont quand même dans le milieu de la construction.
Bien sûr, oui. En fait, dans la pépinière, il y a huit ateliers, que des corps de métiers différents, donc le menuisier, le plaquiste, l'électricien. Et donc,
ça permet aussi des clients par leur intermédiaire.
Exactement, c'est un réseau. On entend parler d'un besoin en plomberie,
c'est pas un plombier,
en carrelage, en électricité.
Il est juste à côté.
Voilà, c'est assez pratique. Et puis même en termes d'expérience, ça peut nous aider sur un problème qu'on peut rencontrer sur un chantier. Voilà, c'est que du plus.
Bon, très bien. Alors, c'est difficile de demander de faire un retour. Et l'activité, vous l'avez démarré, je crois, il y a 3 mois, François. Mais quand même, tout de même, au bout de 3 mois, ça, vous avez l'impression que ça prend
ça... Oui, il y a du travail. Et si on est sérieux, il y a largement de quoi faire.
Bon, pour l'instant, vous êtes seul, mais dès que voilà, les carnets de commandes se remplissent, possibilité peut-être d'embaucher quelqu'un d'ici quelques temps, quoi.
Bien sûr, j'espère.
C'est ça l'objectif, de toute façon, c'est le développement de cette entreprise. Hein.
Exactement.
Bon, en tout cas, on remercie François Fourligny.
Merci.
On redonne votre numéro de téléphone. 06 70 57 75. On peut vous trouver au CIF de Floirac, le centre d'innovation et de formation, avenue Jean-Alphonséa à Floirac. Voilà, rénovation, installation, entretien, dépannage. Merci encore François. N'hésitez pas à intervenir sur un sujet ou un autre. Jacques, on poursuit cette émission. On souhaitait, ou vous souhaitiez, Jacques, faire un coup de projecteur sur le dispositif contrat de génération. C'est vrai que la semaine dernière, on avait abordé les emplois d'avenir avec la mission locale de Haute-Garonne. Et ce soir, ben, on voulait dire quelques mots sur ce contrat de génération. Alors, on a vu que c'est vrai que les emplois d'avenir, ça y est, c'était parti, finalement.
Oui, c'est-à-dire que d'une manière générale, dans cette émission, on voudrait apporter à chaque fois, c'est un petit peu ce qu'on a vu ensemble, un éclairage sur un dispositif ou un autre, un dispositif d'État en la circonstance. Effectivement, on avait parlé des emplois d'avenir.
Et donc, on avait promis à des jeunes jusqu'à 26 ans, voire 30 ans pour ceux qui étaient reconnus adultes handicapés. Là, c'est cette fois-ci.
C'est aussi la même chose.
C'est le contrat de génération.
Contrat de génération. Mais pour des jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés, et sans critère de niveau de qualification. Alors, il s'agit de
donc contrats. Donc, on va dire que ça concerne vraiment le plus grand nombre de jeunes, avec ou sans diplôme, quoi.
Tout à fait. Et il s'agit de contrats à durée indéterminée.
Donc des CDI, ce qui est quand même principalement recherché le plus souvent.
Tout à fait. En temps plein ou en temps partiel. La contrepartie, c'est une aide de l'État pendant 3 ans, hein, pour un montant global de 4 000 euros. Mais attention, c'est soit 2 000 euros au titre de l'embauche du jeune en question, et 2 000 euros au titre du maintien dans l'emploi du salarié âgé. Voilà, c'est le contrat de génération, c'est ça.
Oui, alors justement,
on embauche quelqu'un.
Ça s'adresse à deux générations, en fait.
Exactement, mais on garde un plus ancien, et ce qui nous permet d'avoir aussi une aide de l'État.
Alors donc, pendant 3 ans, 4 000 euros par an, ça fait quand même 12 000 euros sur cette période-là, Jacques, ce qui n'est pas négligeable pour
un
entrepreneur, une petite entreprise.
Ce qui n'est pas négligeable, toutefois, bon, c'est un petit peu la complexité de la chose, c'est qu'il faut avoir déjà une personne que l'on veut garder, qui a un certain âge et que l'on veut garder.
Qui pourrait par exemple partir en pré-retraite, mais qui souhaiterait rester encore dans l'entreprise.
Oui, peut-être, oui, ça peut être ça, mais aussi avec l'intention d'embaucher quelqu'un. Et donc c'est là, peut-être aussi un petit peu la difficulté de l'exercice aujourd'hui. Et on est au début de cette campagne des contrats de génération.
C'est vrai que ça démarre un peu moins bien que les emplois d'avenir.
C'est un peu plus difficile.
On va poser la question à Patrick Raoult. On le rappelle, vous êtes responsable du pôle formation continue, de l'emploi et des ressources humaines à la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aquitaine, section Gironde. Alors justement, cet enjeu de la transmission du savoir, Patrick Raoult, voilà, vous, en tant que représentant de la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est quelque chose qui vous parle, ça?
Ben oui, en effet, vous faites un lien très direct entre la transmission du savoir et des compétences. Et puis le contrat de génération, c'est typiquement le domaine sur lequel il peut s'appliquer et se pratiquer. Donc évidemment que les entreprises artisanales, 27 000 entreprises en Gironde, sont bien sûr une des cibles importantes pour pouvoir promouvoir cette forme de contrat dans les entreprises, de manière à favoriser l'entrée des jeunes dans l'entreprise. Bon, on connaît déjà le contrat d'apprentissage, on connaît aussi le contrat de professionnalisation, qui sera sorti bien sûr d'une démarche de formation. Là, il s'agit d'ouvrir davantage les pistes, les possibilités, hein, pour favoriser la mise en relation entre une demande et une offre d'emploi. Et en l'occurrence, le contrat de génération apporte un cadre qui peut être d'ailleurs assorti, parce que c'est une préoccupation de pas mal d'entreprises artisanales, qui peut être d'ailleurs assorti de formation. On peut imaginer également la combinaison du contrat de génération et du contrat de professionnalisation. C'est tout à fait compatible.
Ça, on peut cumuler, finalement.
On peut cumuler absolument les deux, puisque ça nous est clairement remonté par les entreprises artisanales qui expriment de gros besoins. Notamment lors des difficultés de recrutement, parce que ils sont aujourd'hui détenteurs d'offres d'emploi qui sont difficilement pourvues, qui sont peu pourvues.
Je crois 70 000 en France. Hein.
70 000 en France, oui, absolument. Et nous avons fait même cette mesure sur la Gironde pour essayer de savoir pourquoi justement ces offres d'emploi non pourvues existent dans les entreprises. Bon, on a vu un certain nombre de choses.
Donc c'est vrai que la formation, de qualification.
Bien sûr, c'est ça principalement. C'est aussi lié au fait qu'il y a pas mal de turnover dans les entreprises, il y a pas mal de changements de salariés finalement, donc du coup ça augmente les besoins de recrutement des entreprises et pour lesquels finalement en face il n'y a pas la demande d'emploi suffisamment qualifiée, tout au moins aux yeux de l'artisan. Donc du coup l'assortiment de contrat génération avec le contrat de professionnalisation, c'est pas l'objet, mais quand même ça s'y prête bien, peut apporter des solutions d'intégration pour favoriser l'intégration de ce jeune dans l'entreprise artisanale en répondant à la demande et à la préoccupation première d'avoir un collaborateur Parce que pensez à François qui va créer son premier emploi prochainement, je pense, on en a parlé tout à l'heure.
C'est tout le mal qu'on lui fait, toujours.
Il est vrai que du coup, il crée, il augmente, il multiplie par deux l'effectif de l'entreprise. Donc c'est pas neutre dans le plan de charge, dans le carnet de commandes, dans les activités, et c'est pas neutre non plus dans la capacité pour lui à pouvoir gérer son activité, son entreprise, en ayant une confiance, une capacité de déléguer, en donnant davantage de tâches en autonomie auprès de son salarié, de son ouvrier qualifié. Du coup, et donc par conséquent, évidemment que ça, c'est généralement, ça nécessite généralement de formation et un accompagnement pour ça, notamment auprès d'un jeune.
Et vous pensez, Patrick Gao, que finalement, cet dispositif va trouver sa place justement dans le milieu de l'artisanat ?
Alors, on s'efforce de diffuser l'information. On organise.
Ça s'améliore évidemment, quoi.
Bah oui, évidemment que la croissance peut amener beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Mais du coup, ces mesures existent là justement pour compenser le déficit ou l'absence de croissance aujourd'hui, en partie en tout cas. Mais d'autre part, nous efforçons de faire connaître ces mesures, ces dispositions, au plus près des entreprises artisanales. Donc on se déplace dans le cadre d'actions que nous menons avec les partenaires de l'emploi, les acteurs locaux de l'emploi, donc dans les différents territoires de Gironde.
Donc les actions
de la pointe du Médoc au sud de Gironde, voilà, on organise des réunions d'information.
De formation.
Bien sûr, voilà. Et puis il y a un autre aspect également sur lequel le contrat de génération a du sens pour les entreprises artisanales, c'est notamment dans l'accompagnement qu'il peut apporter en faveur de la transmission et de la reprise de l'entreprise, puisque Sylvia Pinel, donc notre ministre de tutelle, a proposé que et a fait adopter des lois dans le cadre du contrat de génération permettant que l'artisan âgé d'au moins 57 ans puisse embaucher ce jeune en bénéficiant des mesures d'aide dont t'as parlé Jacques tout à l'heure.
Oui, oui. Dans le cas d'une transmission.
Dans le cas d'une préparation de la transmission de son entreprise. Alors dans les petites entreprises du bâtiment, c'est typiquement une bonne démarche.
Oui, oui,
parce que principalement, il y a un peu de matériel à céder, mais surtout, il y a la transmission de la clientèle, la transmission du portefeuille client, la cession entre guillemets du portefeuille client, qui pour lequel souvent les artisans sont très attachés à la confiance, à la relation de confiance qu'ils ont avec leurs clients. Et évidemment, là, la préparation du jeune, l'intégration du jeune.
Oui, c'est-à-dire le recrutement de son successeur.
C'est exactement, exactement. Donc ça va
permettra de garantir quelque
voilà,
part
donc
la
c'est
transmission
un...
du patrimoine, du savoir-faire et des clients aussi. Quoi.
Tout à fait. Voilà.
Bon, donc c'est quand même, voilà, je veux dire, on a envie de dire, c'est un dispositif qui mérite d'être plus connu et qui sera certainement plus utilisé dans l'avenir, Jacques Cablouin.
Exactement. Et c'est pour ça que je rappelle donc que toutes les explications vous seront données le jeudi 3 octobre. Au CIF à Floirac, à 18h, donc, puisqu'il sera question à la fois des emplois d'avenir, des contrats de génération et du crédit d'impôt, compétitivité et emploi. Voilà.
Merci Jacques. On poursuit avec quelques informations sur des événements. Hein. On va revenir au club d'entreprise de ce nom avec Alain Bonnet. On a parlé, Alain, dans un premier temps, de cette visite TBC. Et, on l'a vu avec cette signature de cette convention de partenariat et permettant un allègement de 20% sur le tarif des tickets de transport pour les trams et les bus pour les adhérents du club d'entreprise de ce nom, mais évidemment aussi les salariés de ces entreprises. Donc une chose importante, Alain, mais vous mettez aussi en place, toujours pareil, à destination de vos adhérents. D'ailleurs, un petit mot sur le nombre d'adhérents, il faut le dire. Je crois que le compteur a augmenté ces derniers temps.
Aujourd'hui, on est à 166 adhérents. On est en progression constante et... Bon,
ça manque quand même un certain dynamisme alors, de la ville de Senon.
Absolument.
En matière d'entrepreneuriat.
Voilà, je voudrais profiter quand même de tous ceux qui ont. Je voudrais féliciter tous ceux qui œuvrent avec moi, notre chargée de mission, Isabelle Anne-Douche.
On salue Isabelle.
Ainsi que mes vice-présidents qui font un travail extraordinaire pour m'aider parce que c'est vrai que.
C'est vrai, on a l'occasion de les rencontrer sur le terrain.
C'est pas évident quand on a une activité par ailleurs de gérer un club. C'est pas mal de travail.
Donc on le voit, un grand dynamisme sur ce nom. Et d'ailleurs, parmi ces 166 adhérents, on compte aussi des artisans, je suppose. Il n'y a pas que des grandes ou des moyennes entreprises. Il y a beaucoup d'artisans aussi.
Absolument. Il y a beaucoup d'artisans chez nous, beaucoup de TPE. Mmh. C'est pour ça que l'on œuvre souvent avec la chambre de métier.
Et du coup, pour faire un prolongement sur ce contrat de génération, vous avez aussi des remontées chez vous, parmi vos adhérentes sur des questionnements sur voilà sur la mise en œuvre de ces contrats de génération.
Sur le contrat de génération, le club de Senon s'est engagé à créer au moins cinq contrats. Donc chez moi j'en ai créé un. Donc
c'est bien. Il faut toujours montrer l'exemple. Hein.
Donc moi qui est quand
une
même
entreprise de plomberie, je crois que vous avez
étanchéité, excusez-moi. Couverture, étanchéité, bardage. Et donc ça m'a permis d'embaucher un jeune qui me succédera partiellement puisqu'il y a mon fils déjà dans l'entreprise. Hein. Donc voilà. Et donc on a.
En tout cas déjà voilà. Vous avez donc c'est facilement exécutable comme contrat. Ça vous a pas posé de soucis voilà.
Non, il y a pas de. C'est exécutable. Voilà. Le problème c'est de trouver la personne à embaucher
avec les qualifications nécessaires.
Et de trouver aussi le salarié qui est prêt du départ, quoi,
pour voilà. Et qui est prêt à transmettre
aussi
son savoir-faire.
Il y a un croisement qui est toute la difficulté est là. Hein,
intéressant parce que là on a l'expérience concrète de quelqu'un qui a recruté un contrat de génération dans son entreprise.
Voilà, quoi. C'est ce qui retarde un petit peu le mouvement Moi, je pense que ça va prendre, mais il faut que les gens, évidemment, et le jeune à embaucher et le salarié sur le départ. Voilà, c'est les deux conditions pour que ça fonctionne.
Très bien, Léon, on y reviendra dans d'autres occasions. On voulait en savoir un peu plus sur une formation numérique que vous allez mettre en place, hein, Jacques, c'est bien ça hein.
Exactement. Ça fait un petit moment déjà que le club de Senon travaille avec la CCI sur cette question. Et Alain va pouvoir nous en donner...
Voilà, donc aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers de l'artisanat région Aquitaine, section Gironde.
Je crois qu'on a tous appris par
ça. Ouais, voilà.
Appelé l'ACMAR.
Le club de Senon vous invite à la conférence des enjeux numériques pour votre société. Donc il y aura quatre soirées.
Donc quatre rendez-vous.
Dans
ce dernier trimestre de l'année 2013.
Hein. Voilà, le lundi 30 septembre à 18h à la cyberbase de Senon. Également le 14 octobre à 18h au même endroit, ainsi que le lundi 18 novembre et le lundi 9 décembre 2013, toujours à 18h.
Toujours à 18h et toujours à la cyberbase de Senon.
Voilà.
Bon, très bien. Donc là, c'est cette formation numérique, elle est réservée donc aux adhérents du club.
Aux adhérents et aux non-adhérents. Hein.
Ah, donc toutes les entreprises peuvent venir.
Voilà, il suffit de s'inscrire au club de Senon.
On redonne les contacts pour les inscriptions, peut-être, Alain.
Oui, alors Isabelle Anne-Douche, numéro de téléphone 05 56 86 10 25. Voilà, on appelle Isabelle qui se chargera de recueillir les candidatures avec grand plaisir.
Très bien, sinon il y a un site internet
Il marche pas très bien, donc je conseille plutôt d'appeler.
Bon, il vaut mieux appeler, d'accord.
D'appeler ou alors envoyer un mail au club.
Bon, alors la formation numérique, alors Jacques Blouin, on le sait, c'est très important, ça peut être important pour de nombreuses entreprises.
C'est important pour réussir la transition numérique, ce que disait Alain, et je regardais les thématiques, hein, en fait, du 14 octobre, du 18 novembre, du 9 décembre, tout ça concourt effectivement à réussir la transition numérique. La première session, c'est augmenter son chiffre d'affaires grâce aux outils Google. C'est la première, hein, c'est ça ?
Ouais,
hein, ça n'a pas changé. Hein ? La deuxième, c'est conquérir de nouveaux clients et fidéliser les anciens grâce à une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Ça, on l'a dit tout à l'heure. On parlait des réseaux humain, mais il y a aussi les réseaux virtuels aujourd'hui, les réseaux sociaux.
Je pense que les deux sont compatibles de toute manière.
Complémentaires. Hein. Il faut les associer absolument. Et puis, le dernier sujet, je pense que je ne trahis pas, c'est comment améliorer sa gestion de la relation client avec quels outils CRM et d'emailing, c'est ça ?
Oui, absolument.
Donc voilà, alors.
Donc là, c'est pareil, il y a eu un saut de génération. Il y a encore quelques années, il y en avait beaucoup qui rechignaient un peu à passer au numérique, à communiquer par Internet avec leurs clients. Bon, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, il y a un consensus là-dessus.
Ça devient une obligation.
Tout le monde s'est mis, Alain.
Il faut s'y mettre. Mmh. Les anciens, on est un petit peu plus long à s'y mettre, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. C'est l'avenir.
Donc voilà, et pour ceux qui en ont besoin, donc cette formation numérique sera de la plus grande utilité à la monnaie. Hein.
Et donc, toutes ces soirées se termineront par un apéritif convivial, évidemment.
Ah, très bien. C'est bien de le signaler. Je vais le rajouter sur mon agenda. Donc merci Alain Brunet pour ces explications sur cette actualité de votre club d'entreprise de ce nom, et notamment en ce qui concerne cette formation sur le numérique. On va poursuivre, Jacques, avec le centre de télétravail de la Traîne. Voilà, donc avec Cécile Crimenceau-Mazon, hein, qu'on resalue. Bonsoir Cécile.
Bonsoir
donc,
à tous.
Alors, on va rappeler votre fonction. Vous êtes chargée de mission au développement économique et à l'aménagement de l'espace communautaire et au tourisme. Et vous êtes aussi coordinatrice de l'espace de télétravail donc, qui vient de se créer, je crois, début septembre.
C'est tout à fait ça.
C'est ça.
Donc pour ajouter donc à la communauté de communes des portes de l'Entre-deux-Mers.
Ah, tout à fait.
Donc territoire en rive droite, collé à la Cube.
Tout à fait.
Donc c'est une initiative de cette collectivité, effectivement, de mettre en place ce centre de télétravail. On est très très proche de la rocade, donc très très bien placé. Ce centre de télétravail, en fait, qu'est-ce que c'est ? Parce que bien souvent, l'amalgame peut être fait avec les plateaux téléphoniques, des choses comme ça. Alors c'est pas du tout ça. J'ai entendu dans les propos qui ont été tenus ici, mobilité, numérique, réseau. Donc ça résonne, vous allez voir pourquoi, et pourquoi ce projet-là. Donc en fait, ce projet-là est né de un centre de télétravail, c'est un lieu où peuvent se retrouver soit des salariés qui font du télétravail, soit des indépendants, des auto-entrepreneurs, des gens qui travaillent à domicile. Donc effectivement, le numérique aujourd'hui, ça nous permet de travailler différemment, de travailler de chez soi, de travailler de lieux desquels on ne travaillait pas jusque-là. Donc voilà.
Alors, il y a des collectivités comme la région Aquitaine qui vraiment développent des actions dans ce sens-là et incitent, on va dire, les entreprises à développer de plus en plus le télétravail. Mais pas seulement, l'État aussi, par ailleurs.
Oui,
on voit que certains pays sont beaucoup plus en avance que nous sur ce domaine.
Oui, on a des pays où le télétravail, c'est 30% des actifs qui font du télétravail. Chez nous, on est à peine à 17%.
C'est technique. Les freins, ils sont où, finalement ?
Les freins, ils sont surtout au niveau, pour l'instant, des entreprises, parce que ce ne sont pas des modes de management qui ont été tout à fait intégrés dans les entreprises. Donc maintenant, effectivement, il faut qu'il y ait des accords cadres. C'est la législation aussi française. Maintenant, depuis 2 ans, effectivement, le vocable télétravail est rentré dans le droit du travail. Donc maintenant, effectivement, c'est reconnu. Le télétravail, on en fait depuis très longtemps. On appelle ça le télétravail gris, mais les nomades, qui sont les commerciaux qui sont sur la route, qui travaillent à l'hôtel, etc.
Nous-mêmes, d'ailleurs, le soir, les week-ends, on travaille tous à la maison.
Bien sûr. Donc maintenant, on est dans une phase où, en France, on commence à mettre un cadre autour de ça. Et donc, du coup, les entreprises s'en saisissent, envoient les profits, parce qu'il y a des études qui ont été faites. C'est entre 20, 25 à 30% de gains de productivité sur un salarié qui va travailler en télétravail.
Donc, justement, ça, vous avez justement consulté ces études, analysé, évidemment, ces données. Et pour vous dire, à un moment donné, mais ça serait bien qu'on en façonne justement la communauté de communes.
Oui, alors il y a plusieurs motifs. La mobilité en est un, parce qu'effectivement, on a 70 à 80% des actifs de l'Entre-deux-Mers qui travaillent sur la communauté urbaine. Donc on est dans la semaine de la mobilité. Donc de tous ces actifs qui se retrouvent congestionnés sur la rocade, tout ça pour aller allumer un ordinateur et qui vont mettre 45 minutes à 1h30.
Qu'ils auraient peut-être pu passer 2 heures à la maison, puis partir après quand il y a moins de monde.
Exactement, exactement. Donc c'est comment la société s'adapte aussi au-delà des réseaux, des routes qu'on peut construire. Il y a d'autres choses. Donc il y a effectivement les transports en commun. Bon, nous, on est en dehors de la Cube, donc on est avec Transgironde. Il y a moins de possibilités de transports en commun. Mais comment chaque collectivité peut inventer un nouveau mode de fonctionnement. Aller dans un tiers-lieu, c'est-à-dire aller à maximum un quart d'heure de chez soi, un centre de télétravail, on appelle ça aussi des tiers-lieux. C'est ni le bureau, ni la maison. Donc c'est un tiers-lieu. Parce qu'il fallait pouvoir lui donner un terme, en fait. Et voilà. Et donc il ne faut pas aller plus loin qu'un quart d'heure de chez soi. Et ça évite des encombrements, de la fatigue, du stress, des économies financières pour les gens, hein, parce que on sait très bien le prix de l'essence, du gasoil, etc. Et puis c'est une économie aussi pour l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Alors essayons de lutter contre quelques stéréotypes qui sont sur les espaces de télétravail ou le télétravail à la maison. Alors beaucoup s'imaginent que c'est uniquement pour les femmes qui auraient des soucis de garde d'enfants et tout. Non, finalement ça s'adresse à tout le monde.
Ça s'adresse à tout le monde.
Hommes, femmes.
Tout à fait.
Avec ou sans enfants.
Complètement.
Ça c'est une première chose. Et ensuite, qu'on travaillerait moins si on travaillait justement en télétravail que si on était dans un milieu d'entreprise. Non, ça, il y a là aussi,
non,
on s'aperçoit qu'il y a un gain de productivité.
Il y a un gain de productivité, oui, qui est avéré. Donc, comme je vous disais, parce que les gens sont dans un environnement à un moment donné où ils sont plus tranquilles, ils sont pas dérangés par les collègues qui passent, etc. Il y a des gens aussi. Donc, on va sortir de la catégorie des salariés pour les indépendants où là, travailler à domicile. Par contre, le tiers-lieu est une réponse à la solitude qui peut être...
On se retrouve vite isolé, finalement.
On a fait une enquête hein, avant de mettre en place ce centre sur, comment s'appelle, l'entre-deux-mer, qui s'est prolongé maintenant au niveau de la région Aquitaine. Il va y avoir un grand rendu en novembre, je pense. Et on s'est aperçu qu'il y avait des cas de figure très différents et des gens qui souffraient de cette solitude à domicile, qu'ils soient des salariés, parce qu'il y a des gens qui travaillent à Paris et qui ont une entreprise à Paris et qui travaillent donc à Bordeaux ou dans les environs, et ils sont en tout télétravail et ils sont seuls. Et il arrive un moment, ils ont besoin de recréer un espace de convivialité, mais aussi de sociabilisation professionnelle.
Moi, voilà. J'invite vraiment les chefs d'entreprise ou les salariés d'entreprise qui sont dans cette situation, et à moins d'un quart d'heure, donc pas plus d'un quart d'heure de la traîne, à aller dans le bâtiment de la communauté de communes. C'est là qu'ont lieu ces espaces. Je les ai vus, c'est vraiment très bien.
Donc c'est une superficie de combien à peu près alors ?
Alors on est sur une superficie de, au total, il y a 75 mètres carrés qui sont dédiés, qui sont découpés en trois espaces différents. Un espace où on est en, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est ce qui parle le plus, en coworking, donc en espace partagé. Donc c'est une sorte d'open space. Pour d'une capacité de 8 personnes.
Donc, un
bureau ouvert qui favorise, on va dire, le réseautage. On en parlait aussi. L'émulation, on y vient, là aussi. Les échanges. Et puis, il y a deux autres espaces qui sont modulables et qui peuvent être configurés soit en salle de réunion, de formation.
Donc là, on peut inviter des partenaires, donc organiser une réunion dans cet espace de télétravail. Donc ça, c'est aussi important. Pour les cibles auxquelles vous adressez, surtout les indépendants qui démarrent une activité. Donc on peut organiser des réunions dans cet espace de télétravail. On peut aussi avoir des bureaux privés. Hein,
recevoir ses clients. Voilà, recevoir ses clients. On a des gens, par exemple, qui font du recrutement. Pour eux, c'est vrai que c'est plus confortable, plutôt que le faire par web conférence ou le faire leur salon, ou alors à l'hôtel Ibis ou dans ces salons-là. C'est ce qui se passe, hein, c'est la réalité, hein, c'est ce que les gens nous retournent.
C'est une alternative.
Donc là, c'est avoir une alternative et puis avoir un bureau qui permet de recevoir de façon très professionnelle, finalement.
Je lisais le document publicitaire. À titre indicatif, tarif à la journée entre 10 et 15 euros, location de salle possible. Venez avec votre matériel. Nous nous occupons de vous fournir le haut débit, l'imprimante et les sourires.
Non, voilà, ça c'est les atouts qu'on peut rajouter dans la corbeille. Donc effectivement, il y a du haut débit.
C'est lutter contre
l'isolement. Il y a une imprimante.
Oui, il y a ce qui est nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. Les gens arrivent avec leur matériel. Et la connexion, c'est aussi une des problématiques que peuvent rencontrer des territoires aussi, la fracture numérique.
Parce que là, vous avez du haut débit, c'est garanti haut débit.
Alors du symétrique, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais en plus, on a la fibre optique qui passe au pied du bâtiment. Donc, dès lors qu'on en aura besoin, on pourra, s'y connecter.
Jacques le rappelait, c'est vrai, pour une somme forfaitaire, on va dire, aux alentours de 12 euros par jour, quoi.
C'est entre 10 et 12 euros la journée, voilà, selon le forfait qu'on prend.
Et pour l'instant, donc, on l'a dit au début de cette présentation, l'espace de télétravail, ça a ouvert début septembre, donc c'est difficile
c'est
de faire
frais,
un retour.
Hein. Oui.
Mais vous avez déjà eu des utilisateurs qui sont venus tester, expérimenter cet espace et en disant, mais voilà, je vais m'en servir d'ici quelques temps.
Mais c'est ce qu'on leur propose aussi, et c'est le message que je vais revéhiculer ici, c'est venez essayer, parce que qui, autour de la table, a travaillé dans un tiers-lieu ? Je pense qu'il n'y a pas grand monde.
On va
donc
tous venir
comment
essayer,
savoir si on se sentira bien dans ce type d'espace ? Il faut d'abord venir l'essayer. Donc on propose aux gens de venir l'essayer. Et puis après, ils s'inscrivent sur les forfaits.
D'ailleurs, Cécile Clémenceau, Mazon, si des personnes veulent justement venir essayer, ils peuvent appeler.
Oui, tout à fait. Donc, la communauté de communes.
05 56 20 83 60. 05 56 20 83 60. Donc l'espace se situe au 51
chemin du port de l'Homme.
À la traîne. Voilà, tout simplement. On remercie Cécile Clémenceau-Mazon pour toutes ses explications concernant cet espace de télétravail nouvellement créé à la traîne par la CDC des ports de l'Entre-deux-Mers.
Merci à vous.
Et on va passer tout de suite la parole à toi, Jacques, pour nous parler de ce rendez-vous incontournable sur la rive droite, même de la Cube. Il faut voir qu'il est de plus en plus couru chaque année. C'est le fameux évidemment salon inter-entreprise, anciennement appelé les rencontres inter-entreprise. Et depuis 2 ans maintenant, ce nouveau long, le salon inter-entreprise. Venez booster votre business. Ça sera le jeudi 17 octobre à Artigues près Bordeaux, Jacques.
Voilà, on va en parler un petit peu aujourd'hui, mais on en parlera un petit peu plus dans 15 jours.
Bien évidemment.
Aujourd'hui, on a encore vraiment des choses à évoquer. Alors, le 17 octobre, effectivement, à Artigues près Bordeaux, démarre à 9h30 l'ouverture du salon. Et on l'a appelé salon parce qu'effectivement, c'est un espace.
Privilégié.
C'est un espace privilégié pour le réseautage, encore une fois.
Très bien.
Humain. Mais on commence d'abord par un speed meeting ouvert aux chefs d'entreprise et qui a lieu donc de 8h à 10h30.
Chacun peut se présenter, se rencontrer, échanger les cartes de visite.
Exactement, échanger les cartes de visite. Ça dure, chacun a droit à 2 minutes de parole devant 80 personnes, en fait.
Donc, apprendre la concision.
Exactement. Et après, les gens peuvent se rencontrer dans le reste de la journée. Voilà. Après, bien sûr, à 10h30, il y a un atelier sur la création d'entreprises avec des témoignages d'entrepreneuses. Car c'est organisé par le CIDFF 33, un centre d'information et de droits des femmes et de la famille.
Voilà, on salue d'ailleurs le CIDFF, évidemment, s'il nous écoute. Je crois qu'on sera partenaire sur une journée organisée au mois de mars, Jacques, avec
eux. Oui, avec eux. Après, l'après-midi, il y a des ateliers à 14h30, plusieurs ateliers qui sont à destination, là aussi, des chefs d'entreprise. C'est vraiment dans le but de donner de l'information pour aider au développement de l'entreprise. Ça a trait à 14h30 au groupement d'entreprises, comment se regrouper entre entreprises pour répondre à des chantiers. Je crois que Alain Bonnet, qui est autour de la table, a déjà eu l'occasion de participer à ce genre de groupement d'entreprises, et l'atelier sera animé par la CMARA 33.
Bien.
Voilà.
La chambre de métier,
à 15h, il y aura la protection sociale du chef d'entreprise, c'est animé par Pavillon Prévoyance. À 16h, un atelier sur la transmission d'entreprise, donc c'est préparer sa transmission. Là-dessus, nous y travaillons beaucoup avec la CMARA, la CCI, parce que c'est important que les gens pensent à leur transmission, la préparent, au lieu de mettre la clé sous la porte avant de partir à la retraite. Un autre atelier, c'est sur les contrats de travail. C'est animé par Maître Orientis, donc sur les contrats de travail, les différentes sortes de contrats de travail avec toute la législation nouvelle aujourd'hui. Et puis enfin, un dernier sur réseau et communication qui sera animé par les clubs d'entreprise. J'en profite pour dire que dans cette organisation du salon inter-entreprise, accueilli par la mairie d'Artigues, avec le concours de la mairie d'Artigues, nous avons également le club d'entreprise d'Artigues, très présent, et les autres clubs aussi.
Alors donc on peut les citer, celui de Senon, celui de Lormont, de Carbon-Blanc, des Deux-Rives.
Des Deux-Rives, de Floirac.
De Floirac, bien sûr.
Tous participent.
Et des Côtes-de-Garonne.
Tous participent à la réalisation de cet événement qui regroupera finalement une centaine d'entreprises exposantes pendant le salon. On termine à 18h la journée de travail, je dis bien encore que, par une table ronde sur le thème de l'impact économique des projets d'investissement sur les entreprises et l'emploi.
Donc, table ronde, je me rappelle de celle de l'année dernière, Jacques, qui avait été très très courue, la salle était pleine, et il y avait des intervenants de qualité. Donc cette année, ça sera quoi, Jacques, la thématique?
Cette année, donc, pourquoi on évoque la question de l'impact économique des projets d'investissement sur les entreprises et l'emploi? D'abord parce qu'on a envie, en première main, avant de démarrer la table ronde, de présenter un diagnostic de l'économie, du territoire, des enjeux, des filières et des projets structurants du territoire. Présenter ce panorama pour que les chefs d'entreprise puissent en avoir une visibilité, une lisibilité qui leur permette de se projeter, qui leur permette d'anticiper leur développement. Ce que aujourd'hui ne leur est pas trop permis parce qu'il n'y a pas de visibilité. Notre objectif en tant qu'agence de développement économique et avec le concours des clubs d'entreprise, de la CUB, de nos partenaires CCI et CMARA, c'est de donner cette lisibilité, cette vision d'ensemble du développement du territoire. C'est cette vision-là qui permettra aux chefs d'entreprise de se positionner, de voir de quelle manière ils peuvent développer leur entreprise, développer leur chiffre d'affaires, sur quel créneau. C'est tout ce qu'on espère de cette table ronde du 17 octobre à 18h à Artigues.
Donc là, c'est pareil, c'est sur invitation, Jacques, c'est ouvert à tout le monde,
c'est ouvert à tous les chefs d'entreprise. D'accord. Tout le monde peut venir, bien sûr, sur le site de Haut-de-Garonne Développement. Hein, c'est simple, hein, dans la barre Haut-de-Garonne Développement.
Oui, tout à fait.
Et on atterrit sur le site, on fait la publicité. Ben,
c'est préférable pour histoire qu'une jauge de salle,
mieux,
quand même.
C'est mieux de s'inscrire. Alors, de toute façon, il y a déjà beaucoup de dépliants qui vont être distribués à compter de jeudi prochain.
Et sinon, à 20h, encore rendez-vous
à 20h30, les clubs d'entreprise, avec Haut-de-Garonne Développement, on organise un dîner. Hein, où on remettra des trophées, d'une part, et puis qui permet, en fin de journée, aux chefs d'entreprise, autour d'une table, de parler plus posément de leur entreprise, d'échanger sur leur entreprise, et puis de voir, justement, s'ils ont des capacités à échanger des projets, à travailler ensemble et à développer des affaires communes.
Jacques, une dernière question. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire ou est-ce que les inscriptions sont déjà closes s'il y avait encore une entreprise
pour
qui souhaitait...
Pour encore quelques jours, oui. On prendra des inscriptions, mais
vous
les gens
déjà...
ne seront plus sur le dépliant qui
d'accord.
est à l'impression parce que voilà c'est
et déjà distribué un peu partout, on peut le retrouver un peu partout. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'explications, évidemment, à retrouver tout le programme détaillé sur le site d'Haute-Garonne Développement. Et n'oubliez surtout pas que l'isolement nuit gravement à la santé des affaires, et bien sûr à la santé des affaires, et aussi à la santé tout court. Donc ne restez pas isolés et venez rencontrer toutes les entreprises de la région à ce salon inter-entreprise. On vous le rappelle, ce sera le 17 octobre, Artigues près Bordeaux, et c'est organisé par Haute-Garonne Développement avec l'ensemble de ses partenaires. Jacques, pour finir cette émission, on va vous laisser la parole, mais on va aussi laisser la parole à Patrick Raoult de l'ACMARA 33, donc la fameuse chambre de métiers d'artisanat, évidemment. Donc Patrick Raoult, oui. Effectivement, avec Haute-Garonne Développement, la chambre des métiers de l'artisanat travaille depuis quelques années, notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, vous continuez évidemment ce partenariat. Et dans ce cadre-là, on aimerait en savoir un petit peu plus, notamment sur les formations qui vont être diligentées pour les chefs d'entreprise concernant le management.
Oui, Jean-Christophe, il y a un an et demi, on démarrait avec un certain nombre de partenaires une action de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. C'est un terme un peu barbare, mais enfin, il s'agit surtout finalement de travailler sur tout ce qui concerne les ressources humaines au sein de l'entreprise, savoir quelle stratégie de développement, justement, dans le cadre des ressources humaines, l'entreprise a besoin de travailler. Et nous avons, pendant un an et demi, avec le concours de beaucoup de partenaires, mais aussi la CMARA, travaillé sur cet aspect-là. Une cinquantaine d'entreprises ont fonctionné avec nous dans ce domaine, d'entreprises du territoire de la rive droite, en analysant au sein de leur entreprise où ils en étaient.
D'ailleurs,
de leur... compétences chez leurs salariés, même en interne, auprès des chefs d'entreprise eux-mêmes.
D'ailleurs, il faut le dire, cette JPEC est toujours en cours. Hein. C'est toujours,
Elle se poursuit. Elle se poursuit. Et les prolongements que nous avons choisi d'y donner, c'est cette opération que nous montons avec le concours de la Chambre des métiers qui nous a proposé, avec lequel on a travaillé, un programme d'action qui est venu nous présenter Patrick Raoult aujourd'hui.
D'accord, on vous écoute, Patrick.
Oui, mais très simplement, c'est effectivement force est de constater que le premier acteur de l'entreprise, c'est bien le dirigeant. Et là, à ce niveau-là, nous voyons bien aussi les artisans, les gérants de société, les dirigeants de ces petites entreprises, les chefs d'entreprise, qui se sentent bien seuls face à l'ensemble des tâches, des responsabilités et des missions qu'ils doivent réaliser. Donc, on a déjà fait cette opération, pendant quelques années. Et là, c'était vraiment une réelle opportunité que de rebondir sur la prise de conscience que chaque artisan ou chaque chef d'entreprise participant à l'action GPEC a pu avoir de cette situation, de ces difficultés, que nous avons très naturellement proposé une solution d'accompagnement au moyen d'une formation action. Alors c'est un petit dispositif que nous avons monté, qui alterne à la fois des séances collectives et de l'appui technique individualisé. Mais la matière sur laquelle on travaille, c'est pas un enseignement, c'est pas un cours, on fait pas un cours de stratégie, on fait pas un cours de management. On va travailler sur les situations réelles que chacun des chefs d'entreprise participant à ce groupe rencontre.
Ah, c'est intéressant finalement.
Absolument, voilà. Donc
c'est pas du théorique, c'est on est vraiment dans la réalité, dans le pratique là. Hein.
Voilà, et puis c'est ce qui constitue la source et l'élément sur lequel on échange entre chefs d'entreprise pour partager justement la recherche des causes, la recherche des effets, la définition des plans d'action, savoir comment on s'y prend dans telle ou telle situation. Ah ben tiens, moi j'ai expérimenté telle chose avec mon salarié parce que il avait des difficultés, je percevais qu'il était pas très très motivé dans ses activités, donc j'ai trouvé telle ou telle solution, et moi j'ai fait ceci, et moi j'ai fait cela. Et donc là, on a la possibilité d'échafauder des plans d'action qui collent bien en réalité que rencontrent ces petites entreprises. Donc tout ça, c'est encadré, bien sûr, par différentes séquences. Une première séquence qui est une petite phase de pré-diagnostic où le consultant va rencontrer l'entreprise, le chef d'entreprise, et va permettre de préparer le chef d'entreprise à la présentation de son entreprise et de la question sur laquelle il souhaiterait qu'on puisse échanger et travailler.
Oui, donc ça, c'est un travail en amont préparatoire, justement, de la présentation du contexte, on va dire, de l'entreprise.
Ensuite, on se retrouve en séance collective où, justement, on applique des méthodes qui permettent de passer de l'identification d'une situation à la recherche
des solutions
et des plans d'action de façon très concrète. Alors, on a déjà expérimenté cette action-là à 9 reprises. Et nous avons fait que des chefs d'entreprise hyper satisfaits. C'est la raison pour laquelle je n'hésite pas à communiquer les coordonnées des artisans, des chefs d'entreprise ou des dirigeants de société aux artisans qui le souhaitent, aux chefs d'entreprise qui le souhaitent.
C'est votre meilleure publicité,
absolument,
pour le coup.
Absolument. Et d'ailleurs, il y en aura 2 d'entre eux qui seront présents lors de la réunion de
présentation. Pour dire aux autres, faites comme nous,
pour dire voilà comment ça s'est passé, témoigner
de
la réalité.
Et du coup, ils ont vraiment changé leur méthode de management après cette formation.
Ils le diront, mais effectivement, ils ont trouvé là vraiment une source. Comme je le disais, non pas d'enseignement, mais vraiment d'une capacité pour eux d'échanger et d'un travail personnel sur la façon dont ils appréhendaient le management de l'entreprise, la direction de l'entreprise. Le management, c'est peut-être un terme un peu pompeux, peut-être, pour des petites entreprises.
Mais ça impacte réellement le développement d'une entreprise, finalement.
Mais ça concerne bien les situations au quotidien, la réalité que rencontrent les chefs d'entreprise sur le souci qu'il a qu'il soit performant, que l'ensemble de l'équipe et que l'ensemble des acteurs de l'entreprise soient performants au service du projet d'entreprise.
Alors ça peut être une entreprise de taille moyenne, mais aussi un artisan avec quelques personnes employées. Ça s'adresse à tout type d'entreprise, Patrick?
Oui, alors on a ciblé des entreprises pour leur proposer de nous rencontrer lors de la réunion de présentation jusqu'à une taille de 15 salariés, parce que c'est effectivement 10 et un peu plus selon si la qualification du chef d'entreprise, on va jusqu'à 15 salariés. Il y a des artisans qui sont immatriculés, qui dépassent ces seuils-là, mais voilà, on a ciblé vraiment ces petites entreprises. Donc nous les invitons jeudi 26 septembre prochain, donc jeudi prochain, à 18h30, je crois, oui, Jacques.
C'est ça.
À 18h30 aussi, pour qu'on puisse échanger sur ce parcours, sur cette possibilité de formation. J'ajouterais que on avait parlé de la phase de pré-diagnostic, de la phase de séance collective, et donc, bien sûr, il suit également une phase d'appui technique individualisé, puisque l'idée, c'est de leur mettre à leur disposition le consultant pendant une journée ou deux demi-journées pour les accompagner dans la mise en œuvre des plans d'action ou du plan d'action sur lequel il a travaillé.
Donc là, on voit une vraie valeur ajoutée, Jacques, à cette formation et ce travail de partenariat entre Haute-Garonne et la Chambre des métiers de l'artisanat. Et tout ça pour quel prix, Jacques, finalement? Parce qu'il faut en parler de ça aussi.
Complètement. Mais pour quel prix, comment?
Pour les chefs d'entreprise.
Pour les chefs d'entreprise. Oui. Alors, je ne sais plus le tarif, mais je crois que c'est de l'ordre de 150 euros.
Je veux dire, ça reste très abordable,
200
Jacques.
200 euros, pardon. 200 euros les frais d'inscription.
Voilà, oui. 200 euros de frais d'inscription. Et là, ensuite, bien sûr, l'ensemble du coût pédagogique bénéficie d'une prise en charge du conseil de formation de la formation. Voilà,
c'est-à-dire,
une somme modique, quoi. C'est ce que je voulais dire.
Oui, d'accord. C'est pour une somme modique, c'est complètement qu'on invite les chefs
d'entreprise. Qui peut faire gagner vraiment beaucoup de pourcentage en chiffre d'affaires à chaque entreprise,
vraiment.
Alors, il nous reste une minute, Jacques, si vous voulez conclure.
C'est conclure là-dessus, rappeler donc les ateliers pratiques du management, le jeudi 26 à 18h30 au CIF de Florac, avenue Jean-Alphonse, voilà, sortie Rocade 23. C'est destiné aux chefs d'entreprise, artisans, gérants de société, voilà. C'est une réunion d'information qui sera suivie de plusieurs journées.
Oui, ensuite, avec le groupe, une fois constitué, nous allons définir notre mode de fonctionnement. La pratique, l'expérience nous a permis de voir qu'on était très efficace en ayant une séquence d'une journée par mois qu'on fait généralement sur la deuxième partie de la journée. Donc on va consacrer du 13h, 20h, 14h, 21h. Quelquefois, c'était une pratique finalement à chaque fois, on se retrouvait ensuite pour dîner et continuer d'échanger parce que la convivialité, c'est toujours bon.
C'est
du réseautage consolidé.
Tout à fait. On remercie Patrick Frau pour toutes ces explications. On remercie évidemment à tous Cécile, Clémenceau, Mazon, évidemment pour cette présentation de l'espace de télétravail de la Traîne. Alain Bonnet pour les nouvelles du club d'entreprise de Senon et les formations entreprises sur le numérique notamment. François Fourligny pour la création de votre entreprise, François, donc une entreprise de plomberie au CIF de Floirac, hébergée par la pépinière au CIF de Floirac. On remercie évidemment Patrick Raoult, responsable du pôle formation, voilà, emploi et ressources humaines à la Chambre des métiers d'artisanat Aquitaine, section Gironde. Et pour finir, merci
Jean-Christophe.
Merci, puis on se retrouve merci évidemment dans 15 jours pour une nouvelle écho des entreprises. Et n'oubliez pas ce rendez-vous incontournable pour tous les chefs d'entreprise. Ça sera le jeudi 17 octobre, le salon inter-entreprise, Artigues, près Bordeaux. Voilà, on remercie Jérôme à la régie et on salue nos amis de Lacuna qui viennent s'installer. Je crois qu'on leur a gratté une minute, donc on rembite l'antenne. À plus.